RFI Matin, la suite, un nouveau journal dans 17 minutes et un nouveau point complet sur la situation au Proche-Orient. Alors que le Hezbollah annonce avoir tiré des missiles sur une base militaire israélienne, on revient aussi sur le tollé international après de nouveaux tirs israéliens hier sur des casques bleus. Et puis sur l'inquiétude de l'OMS, alors que plus de 100 médecins et secouristes ont été tués en un an au Liban par les frappes israéliennes, la plupart ces dernières semaines. À suivre d'ici là notamment le regard sur l'actualité de Jean-Baptiste Placard, retour sur la polémique autour de l'état de santé de Paul Biya et sur l'interdiction d'en débattre dans les médias camerounais. Mais tout de suite les sports. Bonjour Olivier Pron.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
Rien que du foot au programme ce matin avec la suite de la troisième journée de qualification à la CAN 2025.
C'est 16 matchs, je vais y arriver. Ouais. Au programme hier, Julien, et déjà de belles options prises en vue de la qualification à valider lundi ou mardi pour la quatrième journée, bien sûr. Trois victoires en trois matchs jusqu'ici. Donc pour l'Égypte, 2-0 face à la Mauritanie hier. Pour la Côte d'Ivoire, à San Pedro, 4-1 aux dépens de la Sierra Leone. 9 points aussi sur 9. Pour l'Angola qui a battu le Niger 2-0. C'est pas mal engagé également avec 7 unités au compteur. Pour le Sénégal, probant vainqueur à domicile 4-0 du Malawi. Première de Pape Thiaw sur le banc. Le remplaçant d'Aliou Cissé a sans doute apprécié la promenade de ses joueurs face au Malawi. But de Nicolas Jackson, son premier en sélection, de Boulaïdia, de Sadio Mané évidemment, et de Pape Gay, le milieu de Villarreal, satisfait de ce succès à domicile après des prestations décevantes ces derniers mois.
C'était un match important. Voilà, l'équipe, on avait à cœur de gagner. Voilà, on est content. On a fait un bon match. Il y a eu beaucoup de buts. Donc voilà, aujourd'hui on sort content. On sait que le public sénégalais est exigeant. Nous aussi on est exigeant envers nous. On sait que bon, on faisait pas des bons résultats. Voilà, tout simplement. Aujourd'hui, je pense qu'on a pris plaisir. On a pris plaisir. Ça a été les mots du coach Thiaw. Voilà, il nous demande de jouer au ballon. D'être disponible, de prendre du plaisir. Donc je pense que c'est ce qu'on a fait. Et je pense que voilà, on est content et on va tout faire pour gagner la semaine prochaine. J'espère qu'on va faire le meilleur match possible aussi là-bas.
Il vise le 12 sur 12, bien sûr. Enfin non, le 10 sur 12, puisqu'ils n'ont que 7 points pour le moment, les Sénégalais. Pape Gay, propos recueilli par Babacar Fall à Dakar. Les Lions à hauteur des Burkinabés dans ce groupe L. 4 points devant le Burundi.
Signons au vert aussi pour le Mali, Olivier.
Une rencontre pas vraiment spectaculaire, Julien, mais un résultat positif pour les Aigles, qui se sont imposés 1-0 face à la Guinée-Bissau à Bamako. But d'El Bilal Touré. Une victoire qui permet aux Maliens de prendre la tête de leur groupe de longueur devant le Mozambique. Le sélectionneur Tom Saintfit est ravi, même s'il est convaincu que ses joueurs auraient pu faire mieux.
On a beaucoup de grandes occasions en première mi-temps pour marquer le premier but avec Djinipo et Bilal. Quand on marque le premier but, c'est plus facile. Au deuxième mi-temps, aussi de grandes occasions et je suis content avec le résultat. Je suis fier de la performance de notre équipe, mais naturellement, ce n'est pas notre meilleur match.
Et victoire aussi, victoire aussi et large pour le Cameroun, pas sorti des problèmes pour autant, Olivier.
C'était piégeux. Hein.
Oui, n'est-ce pas?
Ce serait trop simple pour le Cameroun et pas drôle. On va réinventer, ressortir des cartons, ce feuilleton, rions un peu avec. Et donc là, rions un peu avec le Cameroun. Les Lions indomptables ont battu à Yaoundé le Kenya 4-1 et sont en tête avec 7 points. Tout va bien. Mais, avant l'entame de la rencontre, Joachim Mununga, l'assistant du sélectionneur Marc Brice, a été interdit de banc de touche parce que son nom ne figurait pas, c'est ballot, sur la liste envoyée par la Fédération Camerounaise de football au commissaire de la rencontre. Et du coup, Marc Brice, ben, il a carrément menacé de démissionner si jamais cela devait se reproduire. Sinon, le très gros coup du jour, le succès 1-0 des Comores en Tunisie, 1-0, but de Rafiki Saïd, le joueur de Troyes, pour laisser la cante 118e au classement FIFA. Une victoire à l'extérieur qui relance les Comoriens dans la course. Ils reviennent à un point des leaders tunisiens dans cette poule Madagascar-Gambie, un partout. Enfin, le groupe D, le Nigeria est devant après un succès in extremis 1-0 sur la Libye. Le Bénin est à un point après avoir dominé le Rwanda 3-0. Enfin, dans une autre poule, naufrage du Congo Brazzaville en Afrique du Sud, 5-0. Fin de cette troisième journée ce samedi avec Guinée-Éthiopie, 16h TU à Abidjan, et à 19h Maroc, République Centrafricaine, dans un groupe où le Gabon n'a pu faire mieux qu'un triste 0-0 à domicile face au Lesotho.
Le journal des sports avec le très taquin Olivier Pron. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Bonjour Catherine Potet.
Bonjour Julien, bonjour à toutes et à tous.
La revue de la presse internationale avec vous et à la une, un bombardement meurtrier en plein cœur de Beyrouth.
C'était jeudi, aux alentours de 20h, raconte L'Orient le Jour. Deux explosions en plein centre de la capitale libanaise, bilan toujours provisoire, 22 morts et 117 blessés. Selon les médias de l'État hébreu, une source au sein du Hezbollah, poursuit le journal francophone libanais, la cible était Wafik Safa, chef de l'appareil sécuritaire du parti chiite. Mais sur place, les habitants comme Ahmad l'affirment, il n'y a pas de Hezbollah ici, dit-il, il n'y a que des civils. Jeudi, après s'être assuré que sa famille était saine et sauve, il est resté sur place pour aider les secouristes qui sortaient des enfants et un bébé toujours en vie. Il confie aussi à L'Orient le Jour avoir vu un sac mortuaire de petite taille. Il pense qu'un adolescent a été tué. Le quotidien suisse Le Temps s'est également rendu sur les lieux des bombardements israéliens. Il n'y avait que des civils, assure là encore El Tizam, des enfants, des vieux, des femmes, ces morts, c'était mes voisins. Parmi les témoins rencontrés par Le Temps, il y a aussi Ibtissam, mère de 4 enfants. Le soir des bombardements, l'un de ses fils lui a dit « Maman, je n'en peux plus, mon cœur va s'arrêter de battre ». La famille a couru se réfugier au bord de la mer jusque vers 3h du matin. Les enfants ne voulaient plus bouger, ils étaient paralysés, explique leur mère. La famille a décidé de quitter Beyrouth pour Tripoli, à 80 km au nord de la capitale libanaise.
À la une également, le testament de l'opposant russe Alexei Navalny, mort dans une colonie pénitentiaire de Sibérie en février dernier.
« Je passerai le restant de mes jours en prison et je mourrai ici. » Voici l'un des extraits des mémoires posthumes d'Alexei Navalny qui paraîtront dans une dizaine de jours. Extrait publié par Le Devoir au Canada sur la base d'informations fournies par le New Yorker. « Il n'y aura personne à qui dire au revoir. Tous les anniversaires seront célébrés sans moi. Je ne verrai jamais mes petits-enfants. Je ne ferai l'objet d'aucune histoire de famille. Je ne serai sur aucune photo. » Écrivait le principal opposant à Vladimir Poutine le 22 mars 2022. Le Times a lui aussi lu ce récit posthume et publie de larges extraits datant de 2021, entrecoupés de nombreuses photos qui montrent Alexei Navalny en famille avec son épouse et ses 2 enfants. L'opposant raconte notamment sa grève de la faim et ironise sur les poursuites dont il fait l'objet, 4 affaires en cours. Si on additionne tout cela, on arrive à une peine de 23 ans. Bien sûr, on peut trouver autre chose, mais le total maximal autorisé pour toutes les peines imposées à un individu est de 30 ans. Alors ne vous inquiétez pas, je serai libéré au plus tard, au printemps 2051. Plus cinglant encore, il s'exclame dans un extrait repris par Le Devoir. La seule chose que nous devrions craindre, c'est d'abandonner notre patrie au pillage d'une bande de menteurs, de voleurs et d'hypocrites.
Enfin, Catherine, une découverte qui nous vient de loin.
Et oui, quelle découverte ! Un pied dans une chaussure en cuir dont sort une chaussette avec les initiales de son propriétaire, Essie Irvine. El País raconte : ces vestiges ont été retrouvés en septembre par une équipe du National Geographic dirigée par l'alpiniste et cinéaste Jimmy Sheen au pied de la face nord de l'Everest, 100 ans après la disparition d'Irvine le 8 juin 1924. C'est selon le quotidien espagnol le protagoniste du mystère le plus passionnant de l'histoire de l'alpinisme qui réapparaît ainsi. 100 ans de recherche pour savoir si Irvine et son ami Mallory, dont la dépouille a été découverte en 1999, ont franchi ou non le sommet de l'Everest, une question qui reste toujours sans réponse.
Mystère. Merci Catherine Potet, à tout à l'heure. Bonjour Jean-Baptiste Placard.
Bonjour Julien Coquerel.
Par un communiqué rendu public ce 9 octobre, le ministre camerounais de l'administration territoriale interdit tout débat sur l'état de santé du chef de l'État dans les médias privés, comme pour clore les réactions à la chaîne de ses collègues qui ont rivalisé d'indignation à la suite des rumeurs sur l'absence prolongée du président Paul Biya. À quoi faut-il donc s'attendre à présent ?
L'on peut s'attendre à tout comme à rien, puisque les Camerounais ont cessé depuis longtemps de compter les psychodrames autour de cette seule question. Quant aux médias privés, déjà fragilisés, les représailles judiciaires brandies auront sur eux l'effet dissuasif escompté, même s'ils ont pu s'étonner du manque manifeste de coordination, sinon de cohésion entre les ministres montés au créneau pour condamner les rumeurs. et certains ne manqueront pas de se demander si le zèle de tel ministre n'est pas juste pour celui-ci un moyen comme un autre de se réhabiliter aux yeux du président Biya. Après tout, cette distraction résulte du fait que quelqu'un a oublié de bien faire son travail, qui aurait rassuré les Camerounais et désamorcé toute tentative de manipulation de ce qui n'est qu'une information à communiquer aux citoyens. Est-ce la bonne manière que de sommer ceux-ci de se taire ou de s'abstenir de poser des questions lorsqu'ils sont sans nouvelles de leur président? Un ministre a rappelé à l'occasion qu'il y a des mécanismes qui permettent de poursuivre ceux qui annoncent le décès d'un chef d'État sans s'assurer de ce qu'il se passe. Mais comment justement possède-t-on ici pour s'assurer de ce qu'il se passe?
À 91 ans, Paul Biya n'a-t-il pas, après tout, le droit d'aller se soigner ou se reposer, y compris à l'étranger?
Aucun de ses concitoyens ne lui conteste ce droit et pourquoi devrait-on leur contester, aux Camerounais, le droit de prendre des nouvelles de leur président, y compris de sa santé, ne serait-ce que pour le porter dans leurs prières? Une information simple et claire aurait suffi pour prévenir les rumeurs que le ministre de l'administration territoriale prête à des personnes sans scrupules, colporteurs de nouvelles mensongères et d'élucubrations visant à semer la confusion et le doute dans les esprits, à installer le pays dans l'incertitude. Il reste à s'assurer que l'injonction à se taire ne sème tout autant la désolation. Au regard du nombre de fois qu'une absence prolongée du chef de l'État camerounais à l'étranger, en l'occurrence en Suisse, a donné lieu à ce type de psychodrame, l'on se serait attendu à ce que l'entourage du président ait pensé à un moyen simple d'anticiper les angoisses et les interrogations de leurs concitoyens, sans attendre chaque fois que les rumeurs s'affolent. Après tout, s'il survenait, qu'à Dieu ne plaise, un malheur, cette population serait la première à subir les conséquences des sourdes rivalités et des antagonismes violents au sein même du pouvoir, où l'on ne spécule pas moins sur l'avenir du pays sans Paul Biya.
Ces derniers mois, pourtant, nombre de ces dignitaires ont écumé le Cameroun pour mobiliser l'opinion en faveur d'une nouvelle candidature du président Biya en octobre 2025.
Effectivement, et si les dieux du Jai Lobo le lui accordent, il terminerait ce futur mandat à pratiquement l'âge de 100 ans. Ce n'est donc pas uniquement par voyeurisme que les Camerounais demandent à être éclairés sur l'état de santé de leur président lorsqu'ils ne le voient pas des semaines durant. Amadou Ahidjo, son prédécesseur dans ses fonctions, avait 58 ans lorsqu'il a subitement démissionné en novembre 1982 et passé le relais à Paul Biya parce que ses médecins lui auraient diagnostiqué un mal dont le traitement allait nécessiter des absences fréquentes. Ainsi, ce dirigeant craint qui passait pour un leader autoritaire, sinon pour un dictateur, avait renoncé au pouvoir pour ne pas avoir à diriger son peuple par intermittence ou en vacancier. Mais lui, il avait Paul Biya.
Jean-Baptiste Placa, merci beaucoup. Et sur RFI, bientôt 6h, en temps universel avant le journal, un peu de musique dans la sélection du mois d'RFI. Le crooner portugais Dino de Santiago et la brésilienne Luigi Luna, le titre Obaya les réunit.
Salvador Santiago no bem, me leva pra onde for. Onde teus pés tocarem o chão, me leva pra longe. Vitória, Achada, Lapinha, Gamboa, Tarrafa, Itapuã. Tudo bem, qualquer paisagem de amor, pois com você só faz verão. Me leva pra longe. Se for um lugar de mar, eu vou. Se for um deserto também, se faz frio ou se faz calor, com você fica tudo bem. Qualquer paisagem de amor, pois com você só faz verão.
Sentir nessa melodia o chamado do nosso chão.
Obaya, extrait du premier album solo Eva de Dino de Santiago en duo avec la brésilienne Luigi Luna. C'est dans la sélection du mois d'RFI que vous retrouvez sur le site d'RFI Musique, musique.rfi.fr. A tout de suite pour le journal.
Tout à l'heure sur RFI, Écho d'ici, Écho d'ailleurs, Bruno Faure.
Il représente un Sénégal en mouvement, désireux de faire bouger les lignes en développant son secteur financier et technologique. Une Afrique ouverte sur le monde et centrée sur ses atouts. Omar Cissé, le patron d'InTouch, spécialiste du paiement mobile, est notre grand invité de l'économie RFI Jeune Afrique.
Écho d'ici, Écho d'ailleurs,
avec la Banque Ouest-Africaine de Développement.
Tous les samedis à 10h10 TU sur RFI.
En sol majeur, Yasmine Chouaki.
Avec Emiliano González Toro, chanteur d'opéra. Il donne le la de la musique baroque à chaque occasion. Écoutez son retour d'Ulysse dans la patrie de Monteverdi. Mais il sait aussi chanter du Violeta Parra, l'icône chilienne. Bref, vous avez rendez-vous avec un ténor de la mémoire.
En sol majeur, Yasmine Chouaki.
Tout à l'heure, à partir de 14h10 temps universel et en podcast sur RFI.fr.